وحسين. مايا وحسين une émission présentée par عبد القادر بن دعماش et يوسف طويبية. مايا وحسين tous les mercredis de 22h à minuit. مايا وحسين réalisé par Amin Louli.
Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir ce soir en compagnie de mon ami Youssef Touaibia et mon autre ami Amin Louli à la réalisation de recevoir sur le plateau de Mayo Hsin un ami aussi très proche, un collègue, un artiste dont l'art musical, celui de la musique classique algérienne, coule dans ses veines. Musicien, compositeur et ethnomusicologue, figure très marquante de la musique classique algérienne dite Andalous. À la croisée des cultures et des savoirs, son parcours témoigne d'une quête exigeante, celle de comprendre, de préserver, de renouveler et parfois de reconstituer le patrimoine musical pluriséculaire. Après un long périple en Europe et au Moyen-Orient, il s'installe en France à partir du milieu des années 70. Rachid Gerbas devient l'un des premiers artisans de la diffusion de la musique classique algérienne dite savante. Il fonde Nouba, puis El Beyazine, qui est un espace de recherche, de création et de transmission au sein duquel il développe une vision renouvelée du patrimoine ancestral algérien. Parallèlement à son activité de compositeur et de chef d'ensemble, aussi Rachid Gerbas s'investit pleinement dans la pédagogie et la recherche. Enseignant, conférencier et directeur artistique, il œuvre à transmettre les fondements de la musique classique algérienne, dite savante, dite aussi andalouse, à de nouvelles générations de musiciens, tout en contribuant à une meilleure compréhension de ces structures complexes. Directeur de l'Ensemble national de musique classique algérienne, il est aussi commissaire du Festival international des musiques anciennes pendant quelques années. À travers son parcours, Rachid Gerbas apparaît comme un passeur, comme un bâtisseur et un créateur aussi. Son œuvre, à la fois ancrée dans la tradition et tournée vers l'avenir, contribue à faire vivre et rayonner la musique classique algérienne au-delà de ses frontières d'origine en s'inscrivant et en l'inscrivant aussi dans une dynamique contemporaine et universelle. Nous l'avons rencontré dans l'une de ses pérégrinations, dans une masterclass au profit de membres de l'association Amraoui de Tizi Ouzou la semaine dernière. Bonsoir Rachid.
Bonsoir.
Tu es dans ton espace, celui de la musique classique algérienne. Tu es chez toi. Et je te dis bonsoir avec Youssef Touaibia, mon compère ici sur le plateau de Mayo Hsin.
Bonsoir Tonton Kader, bonsoir nos amis auditeurs, bonsoir notre ami Rachid.
Bien, alors Rachid, est-ce que c'est ça un peu ton parcours, ce que j'ai dit maintenant?
Oui, parfait. On peut revenir peut-être même un petit peu avant.
Oui, oui.
Je veux dire, on ne vient pas de nulle part. J'étais bercé plutôt dans un premier temps par le Shaabi, en tout cas ce qu'écoutait mon père, l'Anqa, Boujmal Anqis, dont on a vu la petite fille tout à l'heure.
Oui.
Et tout ça fait remonter de magnifiques souvenirs. Et bien sûr, la scolarité où on rencontre des amis d'enfance, et parmi lesquels le petit-fils d'Emamri, donc de Benyani, de Etini, qui ont vécu au Maroc, et tous les oncles maternels sont des musiciens, et en même temps très rattachés à leurs origines, donc très attachés aussi bien à la musique kabyle qu'à la musique qu'on appelle aujourd'hui musique arabe andalouse, etc. Donc j'ai appris aussi dans ce milieu-là. jusqu'à rencontrer par hasard, à la mi-temps d'un match de football, un guitariste qui m'a scotché littéralement, Andrés Segovia, et à partir de ce moment-là, je voulais vraiment apprendre la guitare classique. Quelques années plus tard, je me retrouve entre les mains de Youssef Khoudja, qui m'a donc formé à la guitare classique. Et j'étais toujours attaché donc au Shaabi et à la Nouba algérienne jusqu'au moment donc élève à l'Institut national de musique. Il n'y avait pas encore l'Institut national supérieur de musique. C'était le modeste.
À la rue Houssintia.
Exactement.
Juste en face du théâtre.
Voilà. Donc Boudelis Safir Lahmo, en ouvrant la porte comme ça, il me dit mais Rachid, je ne savais pas que vous jouez de la musique algérienne. Il me voyait comme guitariste classique. Donc, il m'a un petit peu poussé à aller vers le Monselia, mais les études ne me permettaient pas de faire plus que ce que je faisais à ce moment-là. Et je me suis trouvé pour la première fois dans un ensemble de la Nouba en train de fêter le 1er mai. Voilà. Donc, c'était un petit peu ça le parcours. Et donc, puisque on s'est retrouvé dernièrement, après de longues années, donc
à Tizi
Ouzou, dans le cadre d'une masterclass. Alors, à vrai dire, au départ, c'était pas du tout prévu comme une masterclass. C'était juste faire découvrir cette région à mes musiciens, les membres d'Al-Baïsin, pour vraiment une résidence artistique et en même temps faire des randonnées. On a eu la chance de rencontrer très vite Madame Goumzian, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et elle s'est accaparée du projet en le poussant vers Tizi Ouzou, en me disant qu'il y avait tout le cadre d'accueil, etc. Et surtout des musiciens de qualité. Voilà, les choses sont parties comme ça. Et donc la masterclass a eu donc lieu à Tizi Ouzou.
Oui, nous sommes à Tizi Ouzou pour ce projet-là. Qu'est-ce que tu as à dire sur le parcours de notre invité ce soir, Youssef?
Moi, j'ai bien aimé la provocation parce que je la prends comme ça. Où sur l'affiche de la masterclass, c'était écrit ouvert à, indifféremment du niveau de pratique. C'est-à-dire que
n'importe
tu as 50 ans
venir.
De pratique en musique, tu peux aller à Tizi Ouzou apprendre des
bien.
Choses.
Oui, oui. C'est une bonne chose.
Je reste sceptique. Hein.
Oui, oui. Il y a eu des... Bon, il va nous en parler peut-être.
Bien sûr, ça demande des explications.
Bon, donc, c'est une question.
Non, il n'y a aucune provocation. Une masterclass se passe à peu près comme ça. Nous avons des élèves qui viennent. Et alors, il y a les pratiquants d'un côté, il y a les auditeurs de l'autre.
Ouais.
Et je tenais à essayer de trouver un compromis, c'est-à-dire je prenais différents niveaux et je m'intéressais à un niveau A qui correspondait à certaines personnes, un niveau B qui correspondait à d'autres, etc. Et je n'ai pas la prétention d'apprendre aux gens qui ont 50 000 années de pratique. Mais peut-être suggérer une réflexion sur leur pratique. Ça, c'est autre chose. Voilà.
Ça, c'est autre chose.
Voilà, c'est autre chose. Et c'est toujours l'enseignement est un lieu d'échange. C'est pas j'ai le savoir, tu te tais, tu écoutes. Non. J'ai dépassé depuis très très longtemps cette phase-là parce que des fois, je me trouve devant vraiment des enfants, des gamins. Je leur apprends une phrase, ils lui donnent une certaine tournure. Je l'arrête, je dis, tu peux refaire, et j'apprends moi-même de mon élève. Donc, je mets l'enseignement sous cet angle-là. Si on n'a pas l'amour des autres, naturellement l'amour et la passion de ce que nous faisons, et l'humilité qu'on se doit d'avoir devant ces monuments, toutes les compositions auxquelles on est confronté, vaut mieux abandonner l'enseignement.
Ouais, on apprend toujours des élèves, hein.
Bien sûr,
évidemment.
On apprend aussi de nos erreurs.
Non, surtout des élèves, des jeunes élèves, parce qu'ils ont un petit peu ils sont dans l'instinct, ils vivent le rythme vraiment de l'intérieur. Il n'y a pas d'influence ou de formatage entre guillemets. Hein. L'enseignant apprend de ses réflexions spontanées de ses élèves. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette masterclass, il y a sûrement des gens qui avaient des années de pratique, est-ce qu'ils peuvent apporter ou est-ce qu'ils ont apporté une contradiction dans le débat? Bon, j'ai pas assisté, tu peux nous en dire un petit peu plus. Voilà.
Moi, j'ai assisté.
Est-ce qu'il y a eu une contradiction? Est-ce qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord avec toi? Voilà, c'est...
Moi, j'ai assisté à la veille de la clôture. La veille de la clôture, moi, j'étais ébahi par le travail qui était fait. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là ce soir pour en parler. Et j'espère qu'il va nous dire un petit mot là.
Alors, donc, effectivement, il y a un échange, et l'échange, il faut qu'il reste dans le cadre du respect de part et d'autre. Voilà. Sans quoi, non seulement il n'y a pas d'échange, et il n'y a pas de transmission. Donc, j'arrive, il y a un programme qui a été fait, et surtout à partir du moment où on a changé d'optique, c'est-à-dire la résidence d'Albaïcine s'est transformé en masterclass, autant chez Madame Goumzien, donc Madame la directrice de la culture de Tizi Ouzou, qu'à mon niveau, on s'est dit il y avait un ensemble vraiment d'une qualité absolument impressionnante, c'est-à-dire l'Amraouya, qui a eu, à mon avis, deux fois le premier prix.
Le prix du Festival national de la Sanaa.
Voilà. J'ai eu l'occasion de les accueillir alors que j'étais commissaire du Festival international des musiques anciennes et de musique andalouse. Et j'étais vraiment très, très ému par la qualité de leur interprétation et par le son qui m'a renvoyé dans les années 50, 60, 70. C'est-à-dire au moment où il y a un bouleversement stylistique dont on aura peut-être l'occasion de parler. Donc c'était une occasion de redynamiser cet ensemble-là. Et donc j'ai retrouvé certains de leurs musiciens.
Excuse-moi, Rachid, une petite monsieur remarque, un ajout à cette idée, puis en pensant à Mardris. Voilà, Mardris, qui est un ancien élève de Mosselia et qui a disparu, la Rahmou, et à partir de... C'était lui un peu qui a donné ce souffle, cette sonorité ancienne, cette sonorité naturelle de la musique andalouse. Je pense que c'était son travail qui était là, que tu as découvert à Tizi Ouzou la semaine dernière.
C'est un grand transmetteur de cette musique-là, il faut le dire. Donc c'est aussi l'opportunité qui était offerte de redonner vigueur à cette association qui était un petit peu en voie de disparition, on va dire.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, et on ne peut pas laisser disparaître le travail d'un monument comme celui de Samar. Vraiment, donc c'était l'opportunité de...
C'est ça, une opportunité et puis une aubaine aussi, puisque pour nous également ce soir... Le réalisateur me fait signe qu'il est prêt pour nous donner un msadr dans le mot de Maya. Ida aftakir l'ahd al-qadim, si je me rappelle les temps anciens.
Thank you.
C'est un extrait d'un Msadar dans le mode Maya, interprété par l'ensemble qui a été constitué à Tizi Ouzou. Rachid va nous en parler. C'est un morceau qui s'intitule Ida Aftakar l'Ahd al-Qadim, si je me rappelle les temps anciens. Alors, avant ce travail qui a été fait, si on peut l'appeler masterclass, il y avait des vidéoconférences. Il y a eu d'un groupe d'Alger, un groupe de Tizi Ouzou, et toi-même, tu étais à Paris.
Oui, le.
Le
monde change et on a des outils qui nous permettent de gagner du temps. Naturellement, rien ne remplacera le présentiel.
C'est ça.
Okay, mais c'est un gain de temps quand même. On a avancé dans la connaissance les uns des autres. Ils ont été un petit peu sensibilisés à ma manière d'appréhender les choses. Alger ou Tizi Ouzou, c'est plutôt le répertoire algérois, la nouba algéroise.
Oui, oui, oui.
Et là, ce que nous venons d'écouter, c'est Ida Aftakar, version tlemcenienne.
C'est ça.
Voilà, donc on peut essayer de le mesurer à 4 temps, ça ne marche pas, il est à 16 temps. Voilà, donc je n'ai strictement rien changé dans le morceau. Comme dans toutes les régions, on a des versions différentes du même morceau. C'est une forme de richesse qui nous invite à la réflexion.
Oui.
Donc, on a commencé à travailler et je suis absent de la scène algérienne depuis un moment. Et donc, j'ai perdu un petit peu le contact avec les musiciens. Et dès qu'on a mis fin à ma fonction en tant que dirigeant de l'ensemble national, je me suis mis en retrait et pour laisser les autres travailler dans la
même tranquille. Du festival international aussi de musique ancienne.
Oui, du festival international. Malheureusement, là aussi, la suite des événements.
C'était une belle expérience à l'époque.
Oui, parce que j'ai essayé de donner une structurer les choses et donner une dimension réellement internationale. Donc, pour revenir à la masterclass. Les échanges ont eu lieu
avant, ante événement,
et donc ils étaient un petit peu au courant de ma manière voir les choses, voilà, c'est-à-dire les gens qui font la nouba algéroise, ils la font très bien, il y a rien à dire. Les gens qui font la nouba tlemcenienne, rien à dire. Ceux de la Nouba du Malouf constantinois, il n'y a rien à dire. Mais moi, j'ai une démarche qui est un petit peu autre. On en a parlé dès le départ. Quand on se retrouve avec des musiciens, l'un venant de Tlemcen, l'autre venant d'Alger, et le troisième et quatrième venant de Annabeille de Constantine, et qu'il y a absence de musiciens, on est mis devant une situation qui nous pousse à réfléchir. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé, il y a deux événements qui se sont télescopés. Ça, c'est le deuxième événement. Je vais revenir. Il y a eu un premier événement. Il y a en 1972 un conférencier qui est passé au Centre culturel français, Christian Porré.
Oui.
Et c'était la première fois que je savais toute l'histoire de Zeliab, etc. Mais là, j'ai eu sa date de mort et sa date de naissance. Et j'étais vraiment choqué parce que je savais que la forme strophique que nous utilisons, qu'on appelle Moshah ou Zajel, ne s'est, entre guillemets, anoblie qu'au XIIIe siècle. Donc, me dire que c'est Zeliab qui a écrit toute notre musique, ça, j'ai commencé à prendre de la distance par rapport à tout ça.
D'ailleurs, il y a une grande réflexion à un moment donné dans un séminaire qui a eu lieu à Skikda, et puis la question a été posée. Est-ce que vraiment c'est lui qui a pratiquement tout fait de ce que nous entendons aujourd'hui de musique andalouse a été fait par Zeliab?
Alors, il y a des événements, qui ne prêtent pas à interprétation. Nous savons donc qu'il est né à telle période, il est mort à telle période. Nous avons la création du Moshah qui, d'abord, c'était un jour qui n'était pas si acceptée par les intellectuels, en tout cas les cultivés de l'époque. Il s'est anobli plus tard et c'est le réceptacle de notre musique. Si on enlève le Mocha et le Zagel, notre musique ne s'explique plus ou n'explique plus rien. Je parle de sa relation avec le
Zagel.
Le Zagel,
c'est tout à fait à la fin. Et de l'apparition du Zagel, il y a eu le retour de ce genre musical au Maghreb, d'une façon.
Voilà. Alors, on parle de retour au Maghreb et ça tombe très bien. Chacun des pays revendique
la paternité
de ce répertoire. Par exemple, les Marocains ils disent que oui, les gens qui sont venus d'Andalousie, ils sont venus au Maroc, c'est vrai. Les Algériens, ils disent que ils sont venus à Bdeia, Alger, Constantine, Tlemcen, etc. C'est vrai. Et les Tunisiens et les Libyens disent la même chose. Mais quand on commence à étudier réellement l'histoire de cette région-là, il y a un très beau livre qui s'appelle « Les Morisques, premier racisme d'État », on se rend compte que les gens empruntaient le chemin le plus sûr. Mmh. Et souvent, ils empruntaient le chemin le plus éloigné et arrivaient à Testour, par exemple. Mmh. Mais quand on commence à regarder les répertoires, ils n'ont rien de commun. Les Algériens ont une manière de faire la nouba. Nos voisins maghrébins, ils la font de manière complètement différente. Quand on ne connaît pas cette musique-là, on croit que la musique tlemcénienne, elle ressemble plus à la musique de Fès, alors que non, pas du tout. Les structures n'ont strictement rien à voir.
Il y a d'autres groupes qui sont partis jusqu'au Mali. Lorsque les gens sont partis jusqu'à Testour, d'autres sont arrivés ici, d'autres sont arrivés ailleurs, il y a toute une communauté qui est partie jusqu'au Mali. Il y a des traces de la musique, entre guillemets, andalouse, qui est arrivée à Bamako.
Oui, mais ce qu'on voit surtout, c'est-à-dire de manière interne, on se rend compte que c'est des musiques qui ont peu de choses communes. D'accord ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à nous dire, qu'est-ce qui s'est donc passé. Et quand on se met à analyser, aller plus loin, d'abord, on bute sur l'absence de documents historiques fiables.
Probants.
D'accord. Mais les familles, par moment, gardent jalousement les documents chez elles. Et on découvre... par exemple, ce qu'a écrit Mohamed Tifashi, qui était un anthologue, et il notait tout ce qui se passait à l'époque. Et il nous dit, en Andalousie, à telle période, on a chanté ce texte, etc. Et là, on voit qu'il n'y a aucun lien avec les différentes musiques maghrébines, mais par contre, il y a un lien avec le Moyen-Orient. C'est-à-dire que quand Zerieb est venu, il a simplement propagé la musique qu'il a connue en Irak.
Chez lui.
Et on le voit aussi au niveau de l'architecture. Les premières constructions, quand les musulmans sont arrivés là-bas, elles ressemblent à ce que on avait aussi bien à Damas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est, on reproduit exactement la même chose. Donc, on arrive à quelle conclusion à la fin ? Eh bien, ces musiques ont été composées dans leur pays.
C'est ça. En fait, il y a eu un assemblage au niveau de l'Andalousie.
À mon avis, il faut oublier cette histoire d'Andalousie, parce que là, nous tombons dans un piège qui a été soigneusement concocté par les orientalistes qui étaient au service du colonialisme français et qui se résumait en deux mots. C'est une terre sans penseurs, en parlant de tout le Maghreb, d'accord ? Leur religion leur vient de l'Est. Et la musique la plus raffinée, ils sont incapables de la produire, elle vient d'Andalousie. Et on tombe complètement dans ce piège-là.
Et c'est pour ça que nous-mêmes, on dit toujours la musique classique algérienne.
On peut dire musique algérienne. Voilà. Moi, je dis tout simplement la nouba algérienne.
C'est ça.
Parce que cette forme, elle est absolument magnifique. C'est d'où le premier ensemble que j'ai créé. C'est pour
des... C'est andalousienne, à l'époque.
Voilà. Je dis nouba.
Très bien. On reste toujours dans le msadar, dans le... mouvement Msadar, et on reste toujours dans le Maya, puisque nous nous appelons Maya Wahsin, on reste dans le Maya, et Ana Jismi Fana, mon corps dépérit.
Ça, c'était le deuxième sadar qu'on a donné, parce que, comme vous avez eu l'occasion de l'écouter. Donc ça, c'est un sadar que nous jouons vraiment selon le style algérois. Donc, qui a été chanté par Sarah Belassouni, une voix montante.
Thank you.
Je vous rappelle que cet enregistrement a été réalisé à Tizi Ouzou lors du masterclass qui a été réalisé dernièrement, la semaine dernière, à Tizi Ouzou par Rachid Gerbaz, qui est ce soir notre invité avec lequel nous sommes en train de parler des bonnes choses et des mauvaises choses, peut-être qui vont arriver dans
moins
un
bon,
petit moment.
Moins
bonnes. Des bonnes et des moins bonnes. Voilà.
Pas de mauvais.
Nous étions avec Amsadar dans le monde de Maya, Anna Jasmi Fana. Voilà. Tout à l'heure, on a évoqué quelque chose. D'ailleurs, je vais te faire revenir un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Que les genres musicaux, on ne parle pas d'école, on parle des genres musicaux, tlemcenia, malouf et sanaa, étaient différentes ou là n'étaient pas, j'allais dire, puissants dans la structure musicale qu'on a hérité aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, Youssef?
Oui, comme vient de exposer notre ami Rachid Gerbaz. Ouais. On ne peut pas être d'accord sur ce qu'il a dit, parce que si on regarde les répertoires maghrébins dans leur ensemble, déjà, ils partagent les mêmes textes.
C'est ça.
Ensuite, ils partagent...
J'allais commencer par cela, parce qu'on retrouve tous les livres...
C'est vrai qu'il y a eu des modifications dans les textes, aussi bien à Alger, c'est-à-dire qu'il y a des textes tombés en désuétude, ils ne sont plus utilisés. Aussi bien dans le répertoire de chez nos voisins, des textes qui sont substitués et on place du texte du domaine religieux sur des anciens textes. Et ensuite, si on met à plat un petit peu les répertoires maghrébins, qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque que pour la même composition, c'est-à-dire pour un même texte, par exemple, on a parlé avec nos amis de Tlemcen et d'Alger la dernière fois, Faisal Boukhalfat, qu'on salue, et des Fazilettes.
Venus sur le plateau de Mehassin pour en parler.
De Mehassin. On a pris l'exemple, par exemple, du Msoddar Hassin Bouchara Hania. Bouchara Hania, dans sa structure à Tlemcen ou sur la structure qu'on peut deviner à travers la partition de Christianovitch, si on la met en parallèle avec le Bouchara Hania du répertoire tunisien, on va voir que c'est les mêmes structures musicales. C'est-à-dire il fait Bouchara Hania, ensuite il fait une Tlalia. Il y a une position, les syllabes, hagda. Ces structures, ces architectures se retrouvent dans les trois répertoires maghrébins.
Ce qui veut dire que nous sommes dans un même patrimoine.
C'est le même patrimoine. Mmh. On dirait, hein, avec toute la rôle, on dirait qu'il y a eu une...
Une première lecture, si on veut
non,
dire.
Une sorte de plan. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a eu un carnet où on a consigné les paroles, style, مثلاً, خادم لي سعدي, يلالان, بالفرحي ثم يلالان والهنا يلالان un cahier de maître et on a ça sur certains manuscrits qu'on a découverts récemment, c'est-à-dire des carnets de maître où il y a la position des tlalia qui va nous indiquer la structure musicale du morceau et on retrouve ces structures, c'est-à-dire le même, si on prend le même texte et on voit sa structure à Alger, Constantine, Tlemcen ou chez nos amis du Maghreb, on va retrouver les mêmes structures. Donc dire qu'il n'y a rien de commun, non. C'est-à-dire qu'il y a des choses communes. Les rythmes, c'est vrai, c'est la structure rythmique, la famille rythmique diffère d'un pays à l'autre. Mais la structure mélodique et tout se retrouve, il y a beaucoup de similitudes. Déjà, le texte en lui-même, c'est...
Avec peut-être les distances des capitales qui sont un peu
distancées. Non, c'est-à-dire on revient à l'idée de M. Gerbaz. C'est une idée que je soutiens à 100%, c'est que ces répertoires sont nés chez nous. Chacun a créé ou a réfléchi ou a mis en place un répertoire et ce n'est pas venu de droite ou de gauche, sinon c'était des influences. Par exemple, un musicien comme Cheikh Larbi Ben Saleh qui va en Syrie, Rouh el-Cham,
il est influencé, il a apporté des choses.
Et il est influencé par une mélodie, il va la restructurer à la façon de...
Il a même imaginé une manière d'écrire la musique.
La musique et tout. Voilà, c'est, je sais pas ce que Rachid va nous dire à ce sujet.
Mon point de vue est le suivant. Dire que nous partageons les mêmes textes est faux. Nous partageons certains textes, d'accord, qui ne dépassent pas...
Ah, ils dépassent, ils dépassent.
Ils dépassent pas quoi?
Ah, ils dépassent beaucoup
de choses. Le nombre.
En nombre, ça, c'est conséquent, parce que si tu reviens au manuscrit... Au manuscrit ancien, tu prends le manuscrit de tunisien de 1884, tu prends la Nouba Dil, ou la Nouba Araq, ou la Nouba Hsin, ah, c'est plus de 50, plus de 50, 60, c'est très significatif.
Il y a une question.
Nouba Ram El Maya, la Nouba Nawa avec la Nouba Raml et Gharib Raml d'ici, c'est des textes le même, les mêmes têtes de morceaux, les mêmes sadr. On peut pas dire que...
Il y a comme ça une idée qui me vient dans l'esprit. Est-ce que tout ça a été publié? Toutes ces recherches ont été publiées?
Peut-être les textes, ça va. Peut-être dans la thèse de M. Gerbas, il a parlé de ça.
On parle de manuscrits, on parle de tout ça. Mais tout ça, c'est retenu par devers des personnes aujourd'hui.
Oui, il y a des manuscrits. Non,
mais
les manuscrits sont partagés.
Ça n'existe pas si on les recherche
en librairie. Non, les manuscrits sont partagés. Ils sont au niveau de la Bibliothèque nationale d'Alger.
D'accord.
C'est vrai que nos chercheurs ne font pas l'effort d'aller dans les bibliothèques. Mmh. Les manuscrits nous ont été communiqués par des chercheurs américains. Mmh. C'est le chercheur américain qui faisait ces investigations, recherches. Qui a trouvé ces manuscrits qui étaient là à la Bibliothèque nationale d'Alger depuis le 19e siècle.
Très bien.
Mais
très
bien. C'est des choses
qui sont pas publiées. Non, je maintiens, pour avoir regardé cette histoire de près, nous partageons un petit nombre de textes communs. D'accord. J'insiste sur cette histoire-là. Et comme j'accorde plus d'importance à questionner le texte musical que le texte littéraire, je dis que, je reviens donc à ce que je disais au début, il s'agit réellement de création locale. Mmh. Après, entre les différents styles ou différentes écoles en Algérie, le problème, il est autre. On a, par exemple, une pièce donnée, un texte, probablement au départ ou à l'arrivée, ça on ne le sait pas, qui a été composé par un tlemcénien, et on a le même texte qui a été composé par un Algérois, et on trouve que la matière musicale, elle est exactement la même à 98%, si ce n'est pas plus. Donc, s'agit-il de deux compositions différentes? En termes de statistiques, c'est du domaine du quasi-impossible.
C'est impossible.
Voilà. Donc, il y a eu un compositeur qui l'a composé, soit à Alger, après elle est partie à Tlemcen, ou plus généralement, venant de Tlemcen et subissant le...
Il y a une troisième piste.
Oui, une troisième piste.
Qu'on avait évoquée avec notre ami de Nassim Al-Andalus, Salim Sli, pour le saluer. C'est peut-être une composition qui est venue de Béjaïa, et il y avait les deux invités d'Alger et de Tlemcen.
Oui,
et
bien
ils
sûr.
Ont chacun a capté quelque chose.
Pourquoi pas?
Et qui a repris le répertoire à son niveau.
Plus proche, plus, de manière plus prosaïque, Amim Safa Bahar Lairahmo me raconte cette histoire. Donc, Mohamed Ben Gergoura et Ahmed Ben Aïchour, qui venaient apprendre telle pièce chez son père, qui s'appelle aussi Mohamed Bahar.
Donc, on appelle Al-Hassar.
Voilà, Al-Hassar. Donc, il venait, donc il était très généreux. À chaque fois qu'on lui demande quelque chose.
Il a beaucoup donné à Mohamed Ben Gergoura.
Oui, il a beaucoup donné. Il a donné à tout le monde. Il était vraiment très spontané, etc. Malheureusement, ce n'est pas une qualité qu'on retrouve chez tout le monde. Ça, il faut le dire. Vous savez, maintenant, Youssef, il est en train de rigoler. Il me retrouve quelque part. Donc, il y avait les deux amis qui venaient. Ils venaient de Blida en calèche. Le moins cher, quand il est... incomplet, il est 5 vers, 3 vers avec une rime et les deux derniers vers avec une rime différente. Donc il y a un, il avait comme mission d'apprendre le beat. Et l'autre, il avait comme mission d'apprendre le matelas.
C'est ça. Retour, chacun
prenait quelque chose. Voilà, ce retour en calèche, ils ne se parlaient pas. Chacun retenait. Voilà, voilà.
Donc, garder les choses... en mémoire ce qu'il a retenu.
Exactement. Alors, des fois, on a une pièce qu'on dit d'Alger. Et on nous sort une version de Blida. On est à quelques kilomètres. Hein, et des fois, il y a une version qui existe à la Casbah et il y a une autre qui existe à Kouba. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Donc, voilà. Là, on est obligé, quand on veut prendre de la distance et vraiment faire marcher l'analyse, de prendre de la distance par rapport à tout ça.
Faire marcher la calèche, comme on
voilà,
dit.
Voilà, exactement. Autre. Faire marcher la calèche. Donc, effectivement, donc, pour revenir à la masterclass, oui. Nous avons eu des échanges. Les points de vue sont différents et enrichissants, naturellement. Mais comme je l'avais dit auparavant, toute cette relation a eu lieu dans nos échanges par visioconférence.
Donc, ouais.
Effectivement, il y a une petite remarque qui a été faite micro fermé. Une masterclass, elle est faite pour les gens qui estiment qu'ils ont quelque chose à apprendre.
Oui. Ouais.
D'accord. Ouais. Maintenant, si
déjà,
dans
le fait
notre...
de se déplacer, c'est déjà une volonté, une grande volonté d'apprendre.
Absolument. Quand on a des gens, par exemple, comme Nadia Ouldmoussa, qui s'est tout de suite inscrite à cette masterclass, ainsi que Sarah Belasponi ou quelqu'un comme Youssef Nouar, ça fait plaisir parce que ça crée de l'optimisme. C'est-à-dire, on a des musiciens qui ont enfin compris qu'un musicien se doit d'apprendre sans cesse. Il n'y a pas de limite. Et l'enseignant, il se doit aussi d'apprendre qu'il apprend aussi des autres. Il n'y a pas un échange à sens unique. On est dans cette démarche-là. Et donc, il est heureux de voir qu'il y a des gens, que ce soit de Tizi Ouzou ou d'Alger, qui ont adhéré et qui ont voulu se remettre dans l'apprentissage. Donc, ils ne sont pas venus pour des confrontations frontales. Non, c'est un échange de gens qui se respectent. Et je crois que, Abdelkader, tu les as rencontrés et tu as eu leur son de cloche. Voilà.
J'étais vraiment satisfait. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu cette volonté, cette manière d'apprendre et de vouloir apprendre. Voilà. Ouais. Ça m'a fait
à
vraiment
faire 120
plaisir.
Kilomètres,
ça m'a fait
c'est
plaisir.
Déjà la preuve.
Oui, c'est déjà la preuve. Et en plus, il faut voir la relation qui s'est tissé entre les uns et les autres. Il n'y avait pas, par exemple, cette concurrence, c'est moi qui vais chanter. Et là, on voit, par exemple, la noblesse et la générosité de Madame Nadia Ouldmoussa, qui n'était pas au sommet de sa forme, alors qu'elle aurait pu chanter. Et elle a donné le ptahi qu'elle a préparé déjà depuis des mois. Mm-hmm. Elle l'a offert à la jeune Hourya qui l'a admirablement bien chanté et qui nous a remis dans le style que nous aimons tant.
Alors, on va écouter un morceau, c'est un darj, non ?
Non, c'est un taïhi. Al-Hubbu Kassani Nuhul.
Très bien, on va l'écouter tout de suite. Thank you. Nous sommes à Tizi Ouzou avec le masterclass qui vient d'être organisé par la direction de la culture de la wilaya Tizi Ouzou et aussi dirigé par notre ami Rachid Gerbas qui est avec nous ce soir. Et ce que vous venez d'entendre, c'est un ptaïhé dans le mode maya qui s'intitule El Hubbu Kesani Nuhul, interprété par la jeune Hourya de l'association Al-Amraouia. Voilà. On va nous céder l'antenne à nos collègues de l'information pour le journal de 23h. Quant à nous, on va vous reprendre tout à l'heure, juste après ce journal.